Donc mon titre c'est « Chez nous, c'est la culture qui est obscène », titre que bon, vous connaissez, c'est une formule, titre tiré d'un court article de Bello paru en 1977 intitulé « Culture populaire et culture sérieuse » dans le roman québécois. Je dis court article, mais j'entends déjà dans votre tête, oui, ils sont tous courts ces articles, cet adjectif est superflu quand on parle de Bello, qui n'a jamais écrit que de manière courte. Tous ses articles, tous ses essais, on le sait, sont très brefs, et même sa thèse de doctorat faisait que 155 pages, ce qui est quand même peu. On le sait, mais on a guère souligné que cette concision, ce qu'elle nous relève de la manière de Bello, qui a le don d'aller à l'essentiel, de résumer en quelques mots, quelques points, les idées les plus complexes, qui opposent au bavardage mondain la rigueur pédagogique. Peut-être pas la rigueur démonstrative, mais la rigueur pédagogique, et qui préfère toujours, justement, aux longues démonstrations, l'illustration rapide, fulgurante, parfois à l'aide d'exemples criants de vérité. Sa poétique de l'adage n'est jamais sécheresse ni laconisme, mais tend à frapper l'imagination et à relancer toujours l'interrogation, comme si écrire pour Bello, c'était rebondir sur la parole d'autrui, poursuivre un dialogue, bien sûr, sans pensant à Bakhtine. Ce court article dont je parle répond, en l'occurrence, à une enquête de la revue Liberté sur l'état et l'avenir de la littérature québécoise une décennie après la Révolution tranquille. Bello fait partie des 17 écrivains qui ont accepté de participer à cette enquête. Mais contrairement à plusieurs autres qui évoquent surtout l'actualité de la littérature québécoise, on est en 77, l'actualité de la politique québécoise, puisqu'on fait souvent référence à l'élection du Parti québécois en novembre 76, lui, Bello considère la littérature québécoise dans sa généralité et il va d'une hypothèse anthropologique qui, malgré son titre, dépasse le cadre strictement romanesque, l'opposition entre la culture populaire et la culture sérieuse qu'il met entre guillemets, s'ouvre sur le conflit, c'est un mot qui m'intéresse et je suis content de passer après Lucie parce que je vais reprendre ce mot tout à l'heure, sur le conflit jamais résolu entre la nature et la culture. Bello écrit « On dirait que dans notre littérature romanesque, l'écriture se sentant à la fois obscurément redevable à la nature et honteuse envers la culture, se censure comme culture et mutile le signifiant. » En d'autres mots, la littérature ne veut pas ici être culture, elle se veut nature. Autant dire qu'elle refuse d'être elle-même, car comment la littérature pourrait-elle cacher ou censurer ce qui semble son essence même, sa définition ? D'où la honte qui l'accompagne depuis toujours et qui se traduit par cette formule percutante et paradoxale « Chez nous, c'est la culture qui est obscène ». Bello n'est pas le premier intellectuel québécois, loin s'en faut, à se plaindre du sort réservé chez nous à la culture, véritable sujet de lamentation dans l'histoire littéraire québécoise, depuis Octave Crémazy jusqu'à Jean Lemoyne, en passant par Hubert Aquin, Pierre Vadeboncœur. Mais il est le premier, selon moi, à formuler les choses de façon aussi crue, et pourtant sans y mettre le poids de la détestation de soi ou du nous qu'on trouve chez ses prédécesseurs. Crémazy avait honte de la société d'épicier à laquelle il appartenait, Hubert Aquin avait honte de la fatigue culturelle qu'il portait comme une croix, Le Moine n'a jamais pardonné au destin de l'avoir fait naître au Canada français, Pierre Vadeboncœur n'en revenait pas de ce qui était devenu le Québec auquel il avait cru si fort. Rien de tel chez Bello, qui adopte un ton non pas moins polémique que chez ceux-ci, mais moins amer, moins rageur, moins blessé. Cela tient peut-être en partie au fait qu'il est le seul parmi eux à se reconnaître dans une certaine culture populaire, qu'il distingue de la culture dite sérieuse et dont il fait, comme on sait, un des vecteurs ou une des spécificités de la littérature québécoise. Mais avant d'entrer dans le vif de ces oppositions, nature-culture, culture populaire, culture sérieuse, un petit mot sur la méthode de Bello, on a utilisé ce mot tout à l'heure, méthode que, personnellement, j'affectionne plutôt, pour appuyer son hypothèse sur laquelle, selon laquelle, chez nous, c'est la culture qui est obscène, Bello part du roman. Il cite « Les demi-civilisés » de Jean Charvet, où la paysannerie est préférée à l'élite. Ces gens qui, tel le français Herman Lillois, sont trop civilisés, et donc des dégénérés, tandis que les paysans de Charlevoix ont, eux, la juste mesure entre nature et culture. Bello cite aussi Hubert Aquin, le plus moderne, le plus international, le plus érudit, le plus sérieux de nos romanciers contemporains, pour montrer que l'obscénité de la culture est généralisée. Je cite Bello, « Quand Hubert Aquin parle de Pénélope dans l'Antiphonaire, il enrobe la référence culturelle de précaution blagueuse. » Et lui, il cite le roman d'Aquin, « L'épouse qui attend que son marin de mari revienne de ses hosties de petits champs homériques. » Fin de citation. Idem chez Godbout, Bassett, Ferrand, chez qui le combat entre le discours littéraire sérieux et le discours spontané ou familial tourne toujours à l'avantage de ce dernier, même si c'est contraire au code culturel, même si ce renversement des rôles a quelque chose d'invraisemblable vu de l'extérieur, c'est-à-dire depuis la tradition romanesque réaliste. Bellot étudie ici la société à partir de ses romans. Il se présente comme un lecteur attentif aux signes du monde, convaincu que le roman constitue un moyen privilégié pour comprendre et analyser la société. Il se soucie aussi peu que possible de ce que disent et pensent les sociologues et les historiens. Sa méthode n'a rien à voir avec les enquêtes empiriques ou statistiques. La formule « chez nous, c'est la culture qui est obscène » a quelque chose de résolument indémontrable, de délibérément non scientifique, et aussi ce que Bellot pense du positivisme dans les études littéraires. Sa vérité, si l'on peut utiliser ce mot, est celle de l'essai, au sens critique que lui donne Adorno, lui qui considérait l'essai non pas seulement comme un art, une manière de Lukács, mais comme une façon de résister aux formes trop systématiques de pensée. Dans cette petite essayistique, Bellot insiste sur le fait que l'essayiste perçoit les idées comme le romancier perçoit les personnages, on l'a vu ce matin. Il y a entre les idées des rapports amoureux ou de haine, tout comme entre les personnages. L'essai est aussi, comme le roman, un genre marqué par le dialogisme bakhtinien, suivant lequel une idée ne surgit jamais seule, mais à travers une chaîne d'obstacles, de barrages, de déviations, de relais, etc. Il y a des idées problématiques comme il y a des personnages problématiques au sens de Lukács. Chez nous, c'est la culture qui est obscène constitue une de ces idées problématiques qu'affectionne particulièrement Bellot. Il fait de cette idée un véritable personnage dans l'ensemble de son œuvre, que ce soit dans le romancier fictif ou dans ses divers essais publiés dans Liberté, puis réunis dans « Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?» et plus tard dans « Surprendre les voix ». Le héros problématique, disait Lukács, est à la fois positif et négatif. Lucien de Rubempré est en même temps victime de sa société et coupable de son propre malheur, lui qui devient le jouet volontaire de la société qui cause sa ruine. De la même façon, on peut dire que l'idée personnage de Bellot est ambivalente, difficile d'ailleurs à réduire à une position esthétique et a fortiori une position idéologique. Si le début du texte de Bellot semble prendre la défense de la culture lettrée ou sérieuse, constamment censurée par les écrivains les plus audacieux, la suite de l'essai modifie la perspective sans pour autant la contredire. Bellot ne cherche ni à réduire ni à durcir cette opposition simpliste entre culture populaire et culture sérieuse. Il change de perspective, inspiré par l'exemple de Bakhtin, qui lui fournit la clé pour penser la culture populaire comme une composante essentielle de son héritage littéraire, comme un mode d'accès aussi à l'universel. Bellot est convaincu, je cite, que la société québécoise est restée profondément marquée par la culture carnavalesque, que notre littérature romanesque est fortement carnavalisée, de La Berge à Godbout en passant par Aquin du Charme. Fin de citation. Je ne reviendrai pas ici sur l'insistance de Bellot à trouver du carnavalesque un peu partout dans le roman et la culture au Québec, comme pour leur donner une plus-value. On peut aisément remplacer le mot carnavalesque par populaire, comme il le fait dans l'article dont je parle ici, mais à condition de voir que cette culture populaire n'est pas non plus dénuée d'ambiguïté chez Bellot. D'un côté, il déplore la censure que le romancier québécois s'inflige lui-même, comme dans l'exemple de l'antiphonaire. De l'autre, il défend l'idée de culture populaire au sens bakhtinien, et surtout contre l'idée de culture marchande. Le Québec serait, selon lui, plus affecté que d'autres sociétés par l'industrie culturelle dénoncée par Adorno et plusieurs autres. Comme si la culture au sens noble ou désintéressé était plus vulnérable qu'ailleurs, comme si la lutte entre la culture et le commerce était toujours inégale. Dans un autre essai consacré au même sujet, culture de masse et institutions littéraires, Bellot s'en prend directement à la culture de masse commercialisée, qui occupe au sein même de l'institution artistique locale une place, selon lui, disproportionnée. Il donne, pour exemple, un titre de journal paru dans le Devoir à la mort du comique Villa Légaré, un géant de la scène disparaît. Puis il ajoute de brefs commentaires, ni Alain Grandbois, ni Pierre Mercure, mur droit à cet honneur. Grandbois et Mercure appartiennent bien sûr à la culture d'élite qui est l'objet de tous les mépris au Québec, selon ce point de vue de Bellot. Et Bellot s'en prend en particulier aux politiciens, et notamment ici au ministre péquiste Louis O'Neill, qui rejetait les manifestations élitistes de la culture québécoise et annonçait vouloir défendre la seule culture populaire. Double dérive donc, selon Bellot, de la culture populaire vers la culture de masse, puis de la défense de la culture populaire vers l'exclusion de la culture d'élite. Le dérapage lui apparaît si répandu dans le discours québécois que l'idée même de culture, peu importe qu'elle soit avant-garde ou populaire, n'occuperait plus que les marges de l'édifice, comme si la culture n'était que la locataire d'une institution dont on ne sait trop qui est le véritable propriétaire. Double dérive, mais aussi constat d'un aveuglement étrange, puisque la culture, la vraie, peu importe qu'elle soit sérieuse ou populaire, passe de l'autre côté de la scène, là où on n'est pas censé regarder. Qui dit obscène dit inadéquation, dit indécence, dit aussi une culture mutilée, c'est le mot qu'il utilise, mais on ne sait pas trop en fonction de quel code, justement, il fait ce commentaire. Cela tient moins à des interdits qu'on peut respecter ou transgresser qu'à des règles implicites touchant la représentation acceptable de soi-même. Il n'y a pas faute, mais il y a honte, quand même, une honte qui n'est pas tant une forme de culpabilité, de quoi l'écrivain serait-il coupable, qu'une gêne, un malaise face à soi-même et à l'autre, face à un autre dont on voudrait être aimé, dont on voudrait se faire complice, comme le montre l'exemple d'Aquin, passant par l'humour pour se rapprocher de son lecteur et pour minimiser l'indécence de l'acte littéraire. Pour accentuer cette idée, Bello lui donne la force d'un renversement. L'obscénité de la culture se voit d'autant mieux qu'elle prend la place de l'obscénité au sens habituel, celle qui relève du sexe, obscénité devenue banale depuis la révolution sexuelle et la contre-culture. Le corps s'exhibe tandis que la culture, elle, se cache ou s'exprime avec malaise au prix de mille contorsions. Je rappelle que nous sommes à l'époque où Denis Vanier insère dans un recueil de poésie une série de photos style Courbet du sexe de sa compagne José Yvon. Réaction de Bello, d'ailleurs, à ce scandale. Denis Vanier peut continuer à illustrer les textes de gros plans de clitoris, ça ne dérange personne. Pour l'essayiste, le vrai scandale est ailleurs. C'est la culture non spectaculaire qui est obscène. La culture est bien sûr un formidable marqueur social. L'obscénité dont parle Bello trahit une forme de déclassement bizarre qui frappe tout le monde, y compris, peut-on penser, l'essayiste lui-même, car les essais de Bello ne parlent au fond que de cela, la culture. La honte ou la confusion éprouvée par les artistes et les intellectuels québécois dès qu'il s'agit d'assumer la culture constitue un leitmotiv de l'essayiste. Je note en passant que nombre de textes du numéro de Liberté parlent d'un malaise dans la civilisation québécoise, de pathologie. Jean Baudouin demande par exemple la littérature québécoise est-elle une maladie? Le titre initial du recueil de Bello, publié en 1984, « Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?» montre à quel point ce thème est central dans la pensée de l'essayiste. Le terme intellectuel subit dans le discours social québécois un traitement particulier, et Bello cite plusieurs exemples de ses usages péjoratifs, empruntés tantôt au discours politique, il parle de Trudeau, médiatique, tout Radio-Canada, littéraire, Godbout, Louis Caron, Yves Beauchemin. À la question « Les écrivains québécois sont-ils des intellectuels ?», Bello répond « Oui, mais l'idéologie de leur société leur défend de l'avouer. Ils ont honte d'être eux-mêmes. » Dans un autre texte du même recueil, « Notre langue comme une blessure » qui date de 1964, Bello formulait déjà la même idée, mais cette fois à propos de l'affirmation linguistique, elle est aussi associée à une forme d'obscénité. Je le cite. « Pour la bourgeoisie régnante, si on franchit une certaine limite dans l'affirmation linguistique et culturelle, si par exemple, tout en précisant qu'il s'agit bien de la langue et de la culture française, on exige une action énergique de l'État québécois, c'est comme si on montrait ses parties en pleine séance de l'Institut canadien des affaires publiques pendant une intervention de Pierre-Éliott Trudeau. Les gens ont des regards gênés. » Félicitations. L'intellectuel, l'artiste ou l'écrivain est coupable d'indécence, confronté à une honte qui s'explique difficilement, mais qui se manifeste par des symptômes étranges, des mécanismes de défense, par lesquels le scandale de la culture est atténué, rendu acceptable, ou alors transformé en une exhibition impulsive, comme ces élans maladroits que l'on voit chez tel individu, très timide, qui veut surmonter sa gêne. En faire trop ou en faire passer, ça revient au même. Dans tous les cas, la culture ne va pas de soi. L'écrivain se sent tenu de se justifier comme s'il devait toujours combler un manque, réparer une blessure, compenser un défaut. Ce n'est pas telle ou telle culture qui est obscène, mais la culture en tant que distance, hauteur, ou comme lointain et comme profondeur, pour reprendre les qualités que Bello prête à la culture allemande qu'il vénère. La formule ne paraît pas des plus originales, mais Bello insiste pour y mettre des majuscules, comme s'il y avait là un slogan qu'il pouvait opposer aux idées reçues de son époque. Le lointain s'oppose ici à une culture de la proximité, laquelle se fait racoleuse, humoristique, cabotine, vulgaire, primitive, spontanée, en un mot naturel, pour ne pas avoir l'air prétentieuse, hautaine, snob, élitiste, hermétique, sérieuse. Cette culture de la proximité, ou plutôt ce culte de la proximité, se manifeste jusque dans les œuvres les plus ostensiblement modernes, comme chez Aquin, mais aussi chez Ferron, je cite encore ici Bello. Dans le ciel de Québec, on sent que l'écriture va décoller, qu'elle va s'enfler de tout ce fantastique culturel qui caractérise les grands romanciers d'Amérique, tels Gabriel Garcia Marquez. Et effectivement, il y a cela chez Ferron, il y a du Marquez chez lui. Les catégories s'abolissent, l'écriture fait mine de prendre en charge la totalité des possibles, puis cela tourne court, l'univers se rapetisse, Ferron se replie sur la cuisine du notaire du village primordial. Aquin, Ferron, ce ne sont pas précisément les moins cultivés des écrivains québécois. Si eux-mêmes illustrent la sorte de culpabilité culturelle, une formule de Bello, dont Bello parle sans cesse, alors on peut penser que le phénomène ne dépend pas de tel ou tel individu, mais ressorti à un fait anthropologique qui surdétermine le rapport que les écrivains d'ici entretiennent avec la culture. C'est une loi paradoxale, puisqu'elle repose sur l'idée qu'il n'existe aucune loi, aucune juridiction, aucune frontière séparant la culture la plus lointaine, le fantastique ou la référence mythologique, par exemple, et la culture la plus immédiate, puisqu'elle rabat la culture lointaine sur la culture du village. C'est donc une loi qui incite, voire qui oblige à passer outre au code culturel dont parle Bello ici et là. Pour y parvenir, il faut à la fois maîtriser ce code culturel et s'en moquer. L'effort dépensé pour en acquérir les bases n'a de valeur qu'à condition que l'écrivain fasse comme si c'était pour lui une non-valeur. Plus que toute forme d'idéologie, un puissant surmoi semble peser sur le créateur d'ici, l'amenant tantôt à s'auto-censurer, tantôt à multiplier les procédés d'autodérision. De temps en temps, Bello signale des cas presque héroïques d'un écrivain québécois qui surmonte ce complexe, et l'un de ses exemples favoris, un peu surprenant tout de même, vu d'aujourd'hui, celui du poète et essayiste Fernand Ouellette, qui est un grand ami de Bello, on l'a dit. Et au détour d'une parenthèse, Bello félicite son ami d'avoir publié un ouvrage sur Novalis sans s'excuser. L'écrivain québécois appartiendrait à la race de ceux que Milan Kundera, dans son dernier roman La fête de l'insignifiance, appelle les excusards. Il est toujours en train de s'excuser ou d'avouer sa faute auprès d'une double honte, honte d'écrire, puisque chez lui la culture est obscène, honte de justifier son écriture ensuite, parce qu'il est tout de même ridicule de s'excuser d'être un artiste ou un intellectuel. Mais en quoi, au juste, est-il obscène d'écrire un livre sur Novalis ou de s'adonner à la culture comme lointain et comme profondeur? Quel sens faut-il donner ici au mot obscène? Prenons par comparaison un exemple notoire d'œuvre qui, à l'époque, a été jugée obscène, outre le recueil de Denis Vanier, qui n'a pas beaucoup circulé, L'effet en soif de Denise Boucher, pièce que le Conseil des arts de Montréal a refusé de subventionner parce qu'elle portait atteinte aux bonnes mœurs, pièce qui a suscité un tollé dans le public au point où 250 000 signataires d'une pétition exigeaient l'arrêt des représentations au TNM. Ce n'est évidemment pas de cette obscénité-là que parle Bello. Il faut plutôt entendre le mot dans le sens que lui donne un autre essayiste majeur, Roland Barthes, on en a parlé aussi beaucoup, dans une scène que rapporte sa biographe Tiphaine Samoyo. Durant ses étés passés à la campagne dans sa villa d'Endal, Roland Barthes fréquentait régulièrement un voisin, le docteur Michel Lepoivre, homme très agréable, cultivé, aimant jouer au piano et menant une vie bourgeoise comme Barthes n'en a jamais connue, avec femme et enfants. Tiphaine Samoyo cite une note de Barthes qui décrit ses visites. Les conversations de poivre sur la musique, la vie, la médecine, banalité sérieuse et sentie, on dirait qu'ils tiennent à être superficiels par pudeur, comme si les profondeurs étaient obscènes, étaient des obscénités. Donc, dans cette note, Roland Barthes ne se moque pas de ce bourgeois sympathique, il n'en fait pas un exemple de bêtise comme chez Flaubert. Il décrit plutôt un certain rapport non conflictuel au langage. Nous sommes à la campagne, en vacances. Il serait donc malséant de susciter le malaise, l'opposition, la polémique peut-être. La conversation glisse sans accroc par une sorte de règle implicite qui interdit d'aller au-delà des paroles consensuelles et donc forcément très banales. Il n'y a pas d'interdit, mais celui qui enfreindrait cette règle tacite poserait un geste ressenti comme obscène. Au double sens que donne à ce mot l'auteur de Fragments d'un discours amoureux, premier sens, l'obscène est la transgression de ce qui est représentable à un moment donné. Parenthèse, il ne saurait y avoir de sens que par rapport à ce contexte. Donc, sans ce contexte, l'obscène disparaît. Deuxième sens, qui découle du premier, ce qui est obscène à tel moment ne l'est plus à tel autre. L'obscène a toujours partie liée avec l'histoire, avec le contexte idéologique ou social. Au XVIIIe siècle, affirme Barthes, l'écrivain s'interdisait de parler directement des problèmes de sexualité, mais abordait ouvertement les problèmes sentimentaux. En 1975, c'est l'inverse. Les chrétiens parlent ouvertement des problèmes de sexualité, mais il est gêné d'aborder les problèmes sentimentaux tant ils sont réputés mièvres, tant ils relèvent de la culture la plus kitsch. Les livres de Denis Vanier ou la pièce de théâtre de Denise Boucher sont délibérément obscènes, mais il s'agit d'une obscénité naïve, superficielle, spectaculaire, mise en scène pour le public, moins pour épater le bourgeois que pour l'éduquer, le faire évoluer en phase avec la frange intellectuelle de la société, qui voilà une victoire de la liberté sur toute forme de censure. L'obscénité de la culture dont parle Bello se joue sur une autre scène que celle-là. Elle ne relève pas de la censure officielle, mais de règles tacites, comme les conversations de Barthes avec son voisin Le Poivre, comme les tropismes chez Nathalie Sarraute. Ce sont des réactions fugaces à la limite de la conscience, mais qui révèlent tout un monde de conventions sociales. Pour comprendre le tropisme derrière cet énoncé « Chez nous, c'est la culture qui est obscène », il faut se situer ailleurs que dans l'aspect social tel que l'étudient les sociologues ou les historiens. L'essayiste file une intuition à travers l'expérience de la lecture, lecture des textes littéraires, comme lecture des signes du monde perçus à travers le discours médiatique en particulier. L'idée exprimée dans la phrase « Chez nous, c'est la culture qui est obscène » intrigue comme certains personnages contradictoires. Elle dit tout à la fois le désir de culture et le refus de la culture. Désir de la culture comme lointain et profondeur, mais refus de la culture comme séparation ou snobisme. Désir de la culture universelle, mais refus de l'universalisme abstrait tel que l'a incarné par exemple la revue Cité Libre. Désir d'assumer la tradition populaire qui marque si fortement la culture québécoise, mais refus d'idéaliser cette tradition comme le font les politiciens et surtout refus de l'instrumentaliser à des fins commerciales. André Bello ne cherche pas à élucider le secret contradictoire de son personnage idéal, mais il ne cesse d'interroger ce personnage, comme s'il était le plus puissant des analyseurs, comme s'il permettait de voir, mieux que toute démonstration méthodique, les contradictions propres à sa société. Comme chez Barthes, l'espèce de honte ou le malaise lié à la culture suppose un conflit latent, un conflit qui n'ose pas dire son nom. Si Bello est un essayiste indispensable, c'est qu'il ne cesse de révéler au grand jour ce type de conflit caché. Il n'oublie jamais la dimension conflictuelle de la culture. Lui qui aime polémiquer et qui, sans le dire explicitement, attribue à la notion de conflit un rôle essentiel dans le débat intellectuel. Ce n'est pas pour rien que l'un de ses essais les plus célèbres s'intitule « Le conflit des codes dans l'institution littéraire québécoise ». On a l'habitude au Québec de penser ce conflit uniquement autour de la question nationale, autour de l'opposition entre régionalisme et l'exotisme, par exemple. Mais Bello déplace la perspective et situe le conflit sur un plan beaucoup plus large. La première phrase de son essai souligne ici « La littérature et la mentalité au Québec sont traversées par un conflit jamais résolu entre la nature et la culture. Ce n'est pas un vieux débat, il continue de déchirer les textes et de dissocier les esprits. » Ce qui est obscène, comme l'a bien vu Barthes en parlant de ses conversations superficielles avec son ami médecin, c'est le conflit en tant que tel. Dans un contexte de loisirs, et on sait à quel point la littérature québécoise tout entière est placée sous le signe de ce que Ferron appelait le grand loisir, le conflit est indécent. Et je terminerai par une formule péremptoire, énigmatique comme Bello les aime. Si la culture est obscène dans un tel contexte, c'est peut-être parce qu'elle est le lieu par excellence de la distance, donc du conflit. Merci.
Merci.